La revue de presse sur France Inter, Claude Ascolovitch.
France Inter, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et on parle ce matin, Claude, d'une policière.
Que le Monde, sur son site, appelle Roxane et qui, un ami, a raconté ceci. Un samedi de manifestation de gilets jaunes, Roxane était armée d'un lanceur de balles de défense et elle avait tiré plusieurs fois des tirs justifiés, dit-elle, sur des personnes en train de commettre des infractions quand tout d'un coup, elle a tiré sur un homme qui n'avait rien fait. J'ai mis la cartouche, j'ai vu un manifestant, j'ai visé la tête et j'ai tiré sans raison. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai fait cela, dit Roxane. Et son histoire, donc, sur le site du Monde, témoigne d'un désarroi que l'on raconte peu. Les violences policières vues par des policiers eux-mêmes, qui plaident bien sûr pour leurs collègues confrontés à l'ultraviolence et qui peuvent craquer après une insulte ou un pavé de trop. Mais ces policiers se disent pantois devant, par exemple, cette jeune fille dont des collègues ont fracassé le crâne à Marseille. Mais au-delà, c'est une politique que le Monde met en cause, puisque le gouvernement, dit le journal, nie contre les évidences ces violences que les policiers savent. Le Monde écrit cela. La série des violences est trop longue pour que les manifestants n'aient pas compris que la police avait les coudées franches. Les dizaines de milliers de gilets jaunes qui ont eu affaire aux forces de l'ordre depuis 6 mois ne l'oublieront pas et le fossé entre les Français et leur police ne cesse de se creuser. Et le journal se souvient du préfet de police de mai 68, Maurice Grimaud, qui avertissait ses troupes contre la violence illégitime. Les gilets jaunes, ainsi, révèlent les doutes de la police institution de l'État, comme ils révèlent, curieusement, une autre crise d'une autre institution sociale, celle-là, la CGT, dont le 1er mai, on le sait, fut éclipsée dans le brouhaha et qui rentre en congrès aujourd'hui à Dijon en désarroi et en déclin. La CGT qui fait moins peur désormais que les ONG, dit l'Opinion, ces organisations non gouvernementales qui défendent l'environnement, avec laquelle les frères ennemis de la CFDT ont pris langue et que les patrons entendent. Le Monde diplomatique, d'un autre point de vue, raconte comment la CGT, depuis des années, s'est fonctionnarisée et assagie et n'aurait pas empêché par radicalisation vaine que par l'oubli de la réalité de la lutte des classes. Et c'est dans cet oubli qu'elle aurait raté les gilets jaunes. Avant de regarder un mouvement de révolté qui a obtenu des milliards du pouvoir, elle aurait dû tout de suite le comprendre. L'humanité est plus tendre avec la CGT, me présente un syndicaliste CGT des coursiers à vélo. Il s'appelle Arthur Rey, il a 30 ans et devant lui, une longue vie de lutte et de militantisme.
Et Claude, on parle aussi, bien sûr, des époux Balkany.
Dont le procès pour notamment blanchiment de fraude fiscale commence aujourd'hui et les Balkany en une du Parisien de Libération sont trop bons clients pour que la presse résiste et vous aurez alors en veux-tu en voilà Riyad à Marrakech, Villa à Saint-Martin et ses billets de 500 euros qu'on oublie dans les poches d'un costume envoyés au pressing, les jours sur Internet en font dans une série leur délice. Mais le meilleur article est ce matin sur Mediapart, où un journaliste, Jean-Louis Letouzet, citoyen de Levallois-Perret, met de l'humour et de la distance et un regard sur sa ville. Jadis cité communiste, marquée par des usines Citroën disparues, devenue, je cite, ville de caméras de surveillance, d'intraveineuses de béton, de police municipale en 4x4, de stères, de crèches, de collines de vacances, à Miami, d'immeubles de bureaux et d'appartements bourgeois qui dépassent aujourd'hui les 10 000 euros. Le mètre carré, tout ça, dit le journaliste, pour les Balkany qui viennent de loin, d'une époque où les notables roulaient en CX et se partageaient les postes et les adjudications dans le feu de la digestion. Quand les Armagnacs succédaient aux Pommard, ils étaient d'une droite pour qui, au fond, l'enveloppe n'a jamais été qu'une juste consolation. C'est du Letouzet dans Mediapart, découvrez. Et le journalisme consiste à donc rendre les pittoresques Balkany à leur époque, ce qui est plus compliqué que d'étaler par avance leur évidente pré-culpabilité. Être coupable ou être innocent, qui y échappe? Le Figaro nous raconte un boîtier TV pirate qui permet à tout un chacun de regarder, de pirater des télévisions. C'est illégal, ça existe pourtant. Comment se sent-on? Vous lirez dans Libération un très beau et très triste article sur un homme disparu ce week-end. Jean-Claude Brissot, cinéaste qui fut condamné pour avoir harcelé des actrices, mais pour la journaliste Camille Nevers dans Libération, cela n'existe que peu en regard de l'œuvre d'un des plus grands cinéastes français. Brissot, fin lettré, cinéphile forcené, versé dans le mysticisme et fils de prolétaire resté précaire toute sa vie, avait ce côté sauvage de l'autodidacte passionné, ce côté bricolé faramineux qui remettait tout en jeu pour le prochain film, le cinéma. Inspire ces mots. Être coupable encore, sans avoir rien fait sinon son métier, vous lirez dans le New York Times, le New Yorker et le journal de l'université de Harvard, The Crimson, comment un grand nom du droit aux États-Unis, l'avocat Ronald Sullivan, qui a redressé plus d'erreurs judiciaires qu'aucun lawyer avant lui, a été humilié et chassé à Harvard où il est enseignant. Sullivan est aussi le doyen, le dean d'une maison d'étudiants, donc chargé d'accompagner et de parrainer les jeunes pousses de la fac. Mais quand il est devenu le défenseur de Harvey Weinstein, des étudiants considéraient qu'il n'était plus en confiance avec lui et Harvard, après des semaines de polémiques, a tranché contre le prof. Il ne sera plus doyen.
Et on parle d'une vie sauvée pour finir.
Et de deux sourires à la une de l'Est républicain, celui de Hamza, bonhomme extatique vêtu de rouge qui le 29 mars dernier faisait un arrêt cardiaque pendant le match de basket qui opposait son club des Hauts-de-Lièvre à celui de Ludre, et le sourire de Adam, 23 ans, bonhomme sérieux vêtu de noir, coéquipier de Hamza qui lui a sauvé la vie quand il est tombé en plein repli défensif. J'allais me moquer de lui, je pensais qu'il déconnait, mais comme le garçon ne se réveillait pas et s'est mis à convulser, Adam, qui a été pompier volontaire, a massé le cœur de son pote et lui a fait du bouche à bouche et l'a relancé au défibrillateur, et avec un autre joueur l'a ramené à la vie avant l'arrivée des secours. On l'a célébré Adam ce week-end, on lui a promis, monsieur le maire de Nancy lui a promis, de l'aider à devenir pompier professionnel. Ça n'a rien l'air de rien, mais je lis du coup avec intérêt dans la montagne qu'à Brassac-les-Mines, les gamins de l'école de judo du bassin ont été formés au premier secours. Il faut toujours tout prévoir dans la vie.